vient d'être 17h, l'heure du journal en français du studio Kalangou. Au micro, je suis Rukai Top Draman. À la une du journal, aujourd'hui 11 mai 2022, c'est le 41e anniversaire de la disparition de Bob Marley, musicien jamaïcain le plus connu du reggae. Vous entendrez les propos de l'artiste nigérien Black Mailer sur les origines du rastafarisme, un mouvement popularisé à travers le succès de l'artiste. Une plainte a été déposée ce matin par 3 organisations de la société civile nigérienne. Elle dénonce des malversations signalées dans le rapport 2021 de la Cour des comptes. En partie magazine, vous suivrez un entretien avec le journaliste écrivain nigérien Sédic Abba sur sa dernière œuvre intitulée « Mali Sahel, notre Afghanistan à nous ». Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en titre, Le Monde se souvient en ce 11 mai de la mort de Bob Marley, que certains considèrent comme le roi du genre musical reggae ou encore du mouvement rastafarisme. Selon Adamu Yakoubadi, Black Mailer, artiste reggae man, Bob Marley est quelqu'un qui était en avance sur son temps et sa musique ne vieillit pas. Il définit le mouvement du rastafarisme et son origine au micro de Mustapha Mamansani.
Le rastafarisme, c'est un courant philosophique qui a pris naissance dans le monde des Africains, beaucoup plus dans le développement de la spiritualité et sur le matérialisme. À cela est venu griffer la musique. C'est un courant qui a été véhiculé de la Jamaïque vers l'Éthiopie avec Haïlé Selassie. À l'intérieur, il y a des conceptions pour certains. Le rastafarisme, comme étant une religion, il y a certains qui ont une conception purement philosophique. Personnellement, moi, je l'ai beaucoup lié à la religion musulmane pour développer la spiritualité, à la recherche de Dieu, à la recherche de la paix. Mais au-delà, si vous faites une relation avec les ports des dreads, les cheveux, ça peut remonter jusqu'au soufisme. Donc la façon de se rétracter pour réfléchir le monde, la sommation des brimades que les Noirs ont subies peuvent expliquer la naissance du rastafarisme. Bon, malheur, c'est l'universalité. Tout ce qu'il a chanté il y a 30 ans, 40 ans de cela, il reste toujours d'actualité.
Trois organisations de la société civile nigérienne, le réseau nigérien anticorruption et le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et tournant la page ont déposé ce matin au tribunal de Niamey une plainte de dénonciation sur des malversations signalées dans le rapport 2021 de la Cour des comptes. Cette action vise, selon elle, à aider le président de la République à lutter efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics. Umaru Adamu, président du réseau anticorruption, au micro de Mokhtar Hamadou.
Le 21 avril de cette année, la Cour des comptes avait présenté son rapport d'audit général. Ce rapport d'audit contient quand même des malversations et des crimes économiques très graves pour notre pays. Donc on peut prendre en compte une estimation de plus de 60 milliards de pertes pour l'État, comme équivalent à 6000 classes en matériaux définitifs. Il s'agit pour nous, dans un deuxième temps, par rapport à notre dernière rencontre avec le président de la République, où il demandait aux organisations de la société civile de l'aider dans le cadre de la lutte contre la corruption. En tant que mouvement intervenant dans ce cadre-là, il est de notre devoir de pouvoir l'aider. Donc, même si la Cour des comptes a fait des recommandations pour des poursuites, il s'agit nous aussi de faire notre action aujourd'hui et de pouvoir aussi, après ça, voir d'autres actions que nous pouvons faire, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour que l'État nigérien soit mis dans ses droits.
L'association Timidria, qui lutte contre la pratique de l'esclavage au Niger, a organisé lundi à Niamey une journée d'échange sur les insuffisances contenues dans la loi criminalisant l'esclavage. Des amendements élaborés seront transmis au comité chargé de rélecture et d'adaptabilité du code pénal et du code de procédure pénale, a expliqué le secrétaire général de l'association Timidria. Ali Bouzou est au micro de Mokhtar Hamadou.
De juin 2003 à aujourd'hui, ça fait à peu près 19 ans que les choses n'ont pas avancé. Il n'y a pas de condamnation en tant que telle parce que de 2003 à début 2022, là, janvier surtout, sur 104 plaintes, il y a eu 54 poursuites pour juste avoir 6 condamnations. Et d'ailleurs, la plupart de ces condamnations-là, c'est avec sursis. Alors que vous trouverez mal quand on vous dit l'esclavage est un crime et qu'on condamne déjà avec sursis. Quelque part, ça ne va pas. Donc le problème qu'il y a, c'est au niveau de l'application de cette loi quand il s'agit des juridictions nigériennes. Donc, on a vu que ça ne va pas. Et on a fait plusieurs réunions et ateliers avec les magistrats qui nous disent clairement que cette loi contient beaucoup d'insuffisances. Mais pourtant, des premiers juges qui ont condamné les cas d'esclavage au Niger, c'était avant même cette disposition-là, avant même cette loi-là. C'est en 1998.
Dans le cadre de la célébration de la fête de la Concorde tenue les 7 et 8 mai à Tintabaraden, les autorités ont organisé des audiences foraines pour la délivrance des actes d'état civil à la population. Un objectif largement atteint selon le président du tribunal de Tintabaraden, Mahmoud Idrissa Jeune, ce matin par Al-Amin Ouachar.
La justice a fait une audience foraine de délivrance des actes d'état civil pour la population qui n'en a pas. Et la population cible n'est pas seulement les enfants ou les femmes, c'est tout le monde qui n'est pas détenteur d'un acte d'état civil. L'objectif visé était largement dépassé, parce que initialement l'objectif était de 6 à 4 jours, mais en 4 jours nous sommes largement allés au-delà. Nous avons pu établir plus de 800 actes d'état civil et plus de 800 jugements déclaratifs de naissance et plus de 800 cartes d'identité nationale délivrées aux personnes qui ont manifesté le besoin et qui sont arrivées dans les locaux de la justice. Dans ce contexte d'insécurité, je crois que identifier une personne, d'abord, c'est bien parce qu'une personne identifiée, connue, rattachée à un terroir, est moins clair à aller dans les groupes qui combattent l'État. C'est dans le cadre de la sécurité globale même, cette activité a contribué à l'éclat de la cérémonie de la Concorde.
Alternative Espace Citoyen a organisé hier à Niamey un café politique virtuel sur le thème « Les jeunes face à l'extrémisme violent au Sahel, enjeux, défis et perspectives dans la refondation de nos États ». Maman Kakatouda, responsable des questions de jeunesse à l'association Alternative Espace Citoyen, explique les motivations au micro de Maman Ada.
L'activité qu'on a organisée hier a porté un peu sur le thème des jeunes face à l'extrémisme violent, enjeu, défi. Et notre objectif, c'est de mettre en réseau les jeunes des pays, par exemple, du Niger, du Burkina et du Mali. Comme vous le savez, à la fin de ce projet, il était dit qu'il est important qu'on essaye de faire une rencontre virtuelle parce que avec les jeunes du Burkina au Burkina, les jeunes du Mali au Mali et les jeunes du Niger ici au Niger, on a échangé en ligne entre nous et la finalité c'est d'abord de mettre en réseau ces jeunes parce que chacun d'entre eux a des expériences, a des connaissances à partager, que ce soit dans le domaine politique mais aussi surtout sur la question de l'insécurité qui guette aujourd'hui la zone des trois frontières. Donc je pense que quelque chose a été planté et nous allons continuer à poursuivre ce processus dans les années à venir également.
Les défis sécuritaires et humanitaires dans la partie sud de Maradi, frontalière avec le Nigeria, poussent le comité international de la Croix-Rouge à s'installer dans la région. L'annonce a été faite ce matin par le président du comité national de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Banjari. Il est au micro de Mohamed Maman.
Il y a, vous savez ici, un problème récurrent de santé comme le choléra. Et nous avons intervenu ici à Maradi au moins deux fois. Vous savez qu'il y a eu cette crise du Covid-19. Maradi était un pôle de sensibilisation. Parce que Maradi, sa proximité avec le Nigeria, fait que nous faisons des actions ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette année, le comité international de la Croix va s'installer à Maradi compte tenu de la situation d'insécurité qui règne sur les frontières avec le Nigeria. Ça prouve bien que Maradi commence à devenir un pôle. Et nous avons ici une jeunesse qui aussi suit le travail que nous faisons. Et nous allons renforcer leurs capacités, parce qu'eux-mêmes ont besoin d'aide en fait. Nous allons faire des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre d'avoir des activités où ils ont de l'argent. Comme ça va renforcer le travail qu'ils font en tant que volontaires.
200 francs CFA, c'est désormais le prix conventionnel de la baguette du pain dans les boulangeries et chez les revendeurs, a déclaré Hassan Souley, le secrétaire général du syndicat patronal des boulangeries et pâtisseries du Niger. Selon Hassan Souley, une solution conventionnelle, consensuelle, a été trouvée entre leur syndicat et le ministère du Commerce à l'issue hier d'une rencontre à Niamey. Il est joint au téléphone par Adama Adawaki.
Nos rencontres avec les hautes autorités ont abouti au désarmement de la farine jusqu'à hauteur de 30 voire 40%. La farine régionale et la farine qui vient de l'international. Et je profite de cela pour vraiment remercier nos plus hautes autorités. Il y a eu une instabilité. Certaines farines ont baissé, Nous, ça ne nous arrange même pas que la baguette soit vendue au dernier consommateur à 250 francs. C'est ça l'explication reste de la baguette. La baguette, c'est 200 francs. Ça, c'est son prix conventionnel. Partout, que ça soit dans les guichets, que ça soit chez le Chaiman, le dernier consommateur doit l'avoir à 200 francs.
Une note de sport dans cette édition. Hier soir au stade général Sène Kountié de Niamey, l'équipe nationale de football U20 du Niger a fait un match nul contre son homologue du Bénin. 0-0 dans le cadre des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans IFOA zone B. Suite à deux rencontres, le Niger a un point et occupe la troisième place de la poule A. Adamou Mounkaïla, secrétaire général de l'association régionale de football de Niamey, explique les chances du Niger pour la suite de la compétition. Il est joint au téléphone par Soumana Amadou.
Le fait d'avoir perdu le premier match a mis la pression sur notre équipe. On était obligé à chercher une victoire contre le Bénin. On a mieux attaqué le match. On l'a fait juste pour quelques minutes. Ça n'a pas continué. Certainement qu'on n'était pas préparé pour ça. C'est sûr que pour le staff, il a choisi les joueurs qu'il pensait être aptes pour le tournoi, mais à l'épreuve des faits, on se rend compte qu'il y avait un décalage par rapport à l'objectif. Mathématiquement, on ne peut pas être le Niger éliminé. Tout ça va se jouer en deux matchs. Le Togo étant déjà éliminé, va jouer contre le Niger, qui a l'obligation de victoire pour espérer passer en demi-finale. Il y a aussi cette histoire de goal average en concurrence avec le Bénin. Le Bénin qui est déjà plus 1, nous on est à moins 1. Soit le Bénin perd par 2-4, quelle que soit notre victoire en passe, ou bien on gagne par 2-4 et le Bénin perd.
Bienvenue dans la partie magazine de ce soir consacrée à un entretien avec Sédic Abba, journaliste, écrivain et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Il nous parle de son dernier livre intitulé Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Le journaliste analyse la situation sécuritaire dans les zones du Sahel et du lac Tchad. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudé Ahmed.
Comme cette région de l'Afrique est confrontée à la menace terroriste depuis une dizaine d'années, j'ai profité pour sortir cet ouvrage en essayant un peu de décrypter l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Dans ce cadre-là, je fais un peu une comparaison avec l'Afghanistan parce que en Afghanistan, comme on sait, les Américains étaient venus en 2001 pour chasser les talibans et combattre le terrorisme. 20 ans après, ils sont repartis sans avoir atteint leur objectif. À côté de ça aussi, j'essaie d'expliquer l'échec de l'aide internationale qui a été apportée au pays du Sahel. Je parle aussi de la présence de nouveaux acteurs tels que la Russie, la Turquie.
Est-ce qu'il y a spécifiquement un point commun de cette guerre au Sahel et en Afghanistan?
Il y a des aspects qui légitiment et qui justifient cette comparaison. Premièrement, en Afghanistan comme au Sahel, nous sommes dans un travail qui est inachevé. Les Américains sont repartis de l'Afghanistan sans avoir atteint les objectifs qu'ils s'étaient eux-mêmes assignés. Et au Sahel, aujourd'hui, la France a décidé de quitter le Mali sans avoir atteint les objectifs de lutte contre l'insécurité au Mali. Deuxième élément, nous assistons à l'échec de l'aide internationale. En Afghanistan, des milliards ont été déversés sur le pays et à la fin, cette aide n'a pas considérablement changé la vie des populations. Nous sommes dans le même schéma. Quand vous prenez l'Alliance Sahel, le G5 Sahel, la Coalition internationale pour le Sahel, tous ces programmes-là vont vous dire qu'ils ont investi des dizaines de milliards. Mais si vous allez à Gossi, au Mali, à Solan, dans le nord-est du Burkina, à Tillaberi, au Niger, vous ne verrez pas l'impact de cette aide réellement sur la vie des populations. Troisième élément, c'est aussi les stratégies des groupes djihadistes. Les talibans avaient un agenda local. Ce qui les intéressait, eux, c'était l'Afghanistan. C'est pas aller commettre des attentats à Paris, à Londres ou à New York. Si vous prenez les groupes djihadistes au Sahel, qui sont notamment organisés autour du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, leur agenda est sahélien. Ils ne cherchent pas à aller partout dans le monde.
Récemment, vous avez visité le Nigeria, les Mali et le Burkina Faso, trois pays qui font face à cette situation d'insécurité. Comment vous analysez la situation sécuritaire dans ces pays?
J'ai été au Nigeria, j'ai été au Tchad, j'ai été au Burkina Faso, au Niger. Quand on fait la comparaison, la situation, elle s'améliore beaucoup plus dans le bassin du lac Tchad qu'au niveau du Sahel occidental. Boko Haram s'est beaucoup affaibli. Au niveau du nord-est du Niger, le Mali, le Burkina Faso, la situation reste encore préoccupante. Les groupes djihadistes sont très actifs, ils attaquent les populations et la stratégie militaire n'a pas donné autant de résultats qu'on le souhaite.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.